Alors avec Yann, on ne s'était pas du tout mis d'accord, mais il m'a fait une superbe introduction. Parce que moi, je vous parlais justement de cette donnée supervisée. Je vous parlais des annotations. Comme Yann l'a dit, les annotations sont au cœur de la supervision des algorithmes. Et aujourd'hui, on va beaucoup parler de ça. Et moi, je vous parlais de comment on les obtient en médecine et pourquoi elles sont difficiles. Et en particulier dans un domaine que Yann a aussi beaucoup traité, c'est le traitement des volumes médicaux. Là, on manque vraiment cruellement d'annotations. Je vais essayer de vous convaincre que pour avoir ces annotations, il faut absolument que les gens comme moi, les scientifiques des données et les radiologues, travaillent ensemble. Alors, évidemment, là, ce que je vous montre, c'est des chiffres en France, dans les dernières années, sur le nombre de scanners et de résonances magnétiques qui ont été pris en France. Et en 2016, vous pouvez voir qu'il y a 22 millions d'examens cette année-là. Et puis en extrapolant un peu, en 2009, on peut supposer qu'il y en a eu 26 millions d'examens. Et là, je ne vous montre que la résonance magnétique et le scanner, donc qui est une toute petite partie de l'imagerie médicale 3D. Et en contraste, là, je vous montre quelques chiffres sur justement les données qui sont partagées dans des challenges en imagerie médicale 3D où on donne à des gens, à des scientifiques des données, des volumes à noter et avec une tâche à résoudre. Et donc, vous pouvez voir ici le nombre de volumes qui sont disponibles. On est entre 300, 750, 1000 pour le dernier. Donc là, on a perdu quand même 4 ordres de grandeur entre le nombre de données disponibles en un an et ce qui est disponible au grand public, enfin pour moi, pour réaliser des entraînements. Alors, donc on cherche des solutions à ce problème de différence, ok ? Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer, pour fixer les idées, je vais juste vous dire ce que j'entends par annotation, donc une petite définition simple pour séparer. Et puis on va parler de deux types d'annotations et je vais vous montrer comment on travaille main dans la main avec les radiologues pour les obtenir. Mais tout ça, on va le mettre dans un cas très concret, qui est l'anatomie du genou. Et bon, Yann il a déjà montré des images du genou en résonance magnétique. Et alors il se trouve que nous avons une collaboration très étroite avec des radiologues suisses du groupe 3R, avec qui on a récupéré 25 000 volumes de résonance magnétique et des rapports. Et on va s'intéresser particulièrement au ménisque. Okay ? Alors le ménisque, c'est le petit coussin qu'on a entre le fémur et le tibia et qui amortit vos chocs quand vous skiez ou quand vous courez et qui souffre beaucoup lorsque vous tombez à ski. Et en RMN, en résonance magnétique, le ménisque apparaît, c'est les petits triangle qui apparaît sur les côtés, à gauche et à droite, et il y en a deux, le médial et le latéral. Alors c'est important parce qu'on va beaucoup en parler. Alors, au niveau des annotations, on va les séparer en deux classes très simples. Les annotations de classe et ce que j'appelle les annotations avancées. Alors, une annotation de classe, c'est quelque chose qui caractérise le volume médical dans son entièreté. Par exemple, cette image, ce volume de résonance magnétique est un genou. Ça, c'est une annotation de classe. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez dire qu'il est normal ou pathologique. S'il est pathologique, on peut dire que c'est le ménisque qui a souffert et il n'est pas normal, parce qu'il y a par exemple une lésion dans le ménisque médial ou latéral, etc. Donc cet arbre peut augmenter et aller très loin. Quant aux annotations avancées, eh bien, les annotations avancées, c'est quelque chose qui va demander beaucoup plus d'efforts, puisqu'il va falloir aller dans l'image et indiquer, un peu comme le montrait Yann dans sa présentation, des zones très précises à l'intérieur du volume. Vous allez, par exemple, on va demander au radiologue de mettre un point, de m'indiquer où se trouve le ménisque, ou de mettre une zone avec une boîte englobante. Et puis, ça peut aller beaucoup plus loin. On peut demander de créer des surfaces ou des volumes. Bien évidemment, toutes ces annotations, elles demandent énormément de temps au médecin. L'annotation de classe, c'est pratiquement ce qu'il fait tous les jours quand il donne son diagnostic sur l'image. Mais l'annotation avancée, elle, par contre, ça le sort complètement de son cadre et ça lui demande beaucoup, beaucoup de travail. Et pourtant, on en aura besoin. Alors, quand on a commencé ce projet sur le genou, je vous ai dit, on a 25 000 volumes, tous avec le rapport. Alors, on nous a donné ça. Et puis, le scientifique des données que je suis, c'est un peu comme si demander son trajet. Moi, je n'aime pas du tout demander mon trajet. Et là, c'était pareil. J'avais envie de faire tout seul le problème. Et donc, j'avais des rapports. Je me suis dit, c'est super, avec ces rapports-là, je vais pouvoir avoir les annotations dont on parle. Il suffit juste que j'ai des rapports. Et puis, c'est bon, je vais pouvoir entraîner mes algorithmes. Et là, je suis allé lire les rapports. Et là, je suis tombé sur gonathrose tricompartimentale, nodule ostéochondromateux articulaire libre. Et puis, je me suis dit, ça va être un peu difficile, en fait. Mais c'est pas grave, je vais me concentrer sur le ménisque. Je voulais vraiment voir comment les radiologues qualifient le ménisque dans leurs rapports. Et donc, on est allé lire les rapports. Et là, je tombe sur fissuration du corps intermédiaire du ménisque interne, ou bec de perroquet à la face supérieure du segment moyen du ménisque interne, ou encore perte de substance du bord libre du segment moyen du ménisque interne. Et puis, je ne vous lis pas la dernière, mais toutes ces phrases posent le même diagnostic. C'est la même chose. Un problème au ménisque interne au segment moyen. Bon, alors, bien sûr, je pouvais me dire, je le fais tout seul, je vais les chercher, mais ça va me prendre énormément de temps. Heureusement, on a une collaboration avec des radiologues. Et donc là, on s'est mis à parler avec les radiologues. Et puis ce discours qui, au début, je pensais qu'il allait être tout simplement, qu'ils m'expliquent comment ils font leur diagnostic, est devenu un vrai dialogue où le radiologue qui, lui, par son travail de tous les jours, il veut aller très, très profondément dans l'arbre. Donc lui, il voudrait annoter les classes des images vraiment très profondément. Il veut aller jusqu'au moindre détail. Et moi, scientifique des données, là, je panique parce qu'aller si loin dans les annotations, signifie une énorme quantité de données. Plus vous allez loin dans l'arbre, plus vous avez besoin de données pour les caractériser. Il y en a de moins en moins dans la queue de la gaussienne. Donc, ce travail, ce dialogue, en fait, il pose aussi... donc, il faut négocier avec le radiologue pour qu'il dise « Bon, je veux bien lâcher cette partie, mais tu me fais un algo qui marche. » Donc, c'est un vrai travail. Une fois qu'on a compris tout ça, eh bien, moi, je peux aller annoter les rapports. Enfin, moi, pas tout seul, mais avec des gens de mon équipe. Donc là, on l'a fait, on a annoté 3000 rapports. Donc là, on a lu les rapports et on a dit, ce rapport-là dit que le ménisque interne est fissuré. Et là, on va aller faire appel aux techniques dont Yann a parlé, c'est les techniques d'analyse du traitement naturel du texte. Et alors, j'ai dit que les rapports étaient compliqués, mais ils sont beaucoup moins compliqués quand même que l'ensemble du vocabulaire français. Et donc, avec les 3000 rapports qu'on avait, en entraînant un petit réseau bidirectionnel récurrent, eh bien, on obtient des résultats super. En fait, on était très contents. On avait 98% pour le ménisque médial et 95% pour le ménisque latéral. Donc là, ça voulait dire quoi? En lisant la machine, l'algorithme lisait le rapport et produisait un label de classe. Il disait, ce rapport dit que le ménisque médial est fissuré. Donc, on était très contents. Et donc là, je me suis dit, c'est super. Maintenant, comme chaque volume de résonance magnétique a un rapport, j'ai une annotation de classe pour mon volume. Et du coup, je peux aller entraîner mes images. Donc maintenant, je peux prendre des algorithmes pour apprendre sur les labels du volume entier. Et là, on était un peu déçus. Parce que les résultats pour prédire la fissure du ménisque latéral ou médial sont bien en dessous que les capacités des radiologues. Donc là, le radiologue, il serait tout le temps mécontent avec les résultats. Et puis, quand on a essayé d'aller plus loin, on a voulu aller dire, est-ce que c'est la corne supérieure du ménisque qui est fissurée? Alors là, c'est pire encore. Donc, les annotations de classe se sont avérées insuffisantes pour aller produire des algorithmes qui se basent sur les images pour prédire l'état d'un ménisque. Alors, on ne va pas y couper, on va aller aux annotations avancées qui, comme j'ai dit, sont celles qui prennent le plus de temps. Et c'est là où on doit assister, on doit le plus travailler ensemble avec le radiologue. Mais avant de parler exactement des algorithmes qui aident à ces annotations, il y a un point essentiel qui fait intervenir pas que les gens les sciences des données, mais il fait intervenir aussi... les développeurs. C'est-à-dire que n'importe quel outil qu'on va proposer au radiologue, il se doit d'être complètement adaptable à l'annotateur. Alors, il faut comprendre que là, je vais demander au radiologue d'annoter beaucoup d'images. Alors, je ne vais pas demander 25 000, mais si je lui demandais 25 000, si je le fais gagner 10 secondes sur l'outil, ça lui fait gagner au total 3 jours. Donc les outils doivent être vraiment... Et ça, c'est essentiel parce que souvent, on fait du design d'interface d'annotation un peu en décorrélation avec le travail des radiologues et on interagit peu avec eux. Moi, je pense que c'est essentiel de leur donner très tôt et de faire une boucle, et pas qu'avec un petit paquet, mais avec beaucoup. Donc il nous faut une plateforme qui se déploie facilement. Donc maintenant, on va continuer sur notre exemple du ménisque. Et là, ce qu'on on a demandé au radiologue, c'est de nous dire où se trouve la fissure dans le ménisque et où se trouvent les ménisques. Alors, pour bien comprendre pourquoi ce n'est pas la même chose que de lire le rapport, je vous ai mis des points là, et des boîtes, des coordonnées de points. Le médecin, cette fois-ci, il fait beaucoup plus qu'aller lire, donc aller donner son diagnostic. Il faut qu'il aille sur le volume et mettre un point, ce qui lui prend énormément de temps. Alors, on va essayer de l'aider. Et les algorithmes dont on a parlé tout à l'heure, qui traitaient les rapports, et que je vous ai dit que ce n'était pas terrible pour les images, et bien pour cette tâche, elles vont être extrêmement utiles. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les volumes, le rapport, l'algorithme va analyser le rapport, et va fournir au médecin, il va lui dire, écoute, la fissure, il y a une fissure, et elle se trouve sur le ménisque interne, à sa corne supérieure. Comme l'algorithme qui lit les rapports, il est très fort, là, il va beaucoup aider le médecin. Le médecin ne doit plus analyser à nouveau l'image pour aller mettre le point dont je lui demande sur la fissure, mais il va directement aller voir là où je lui ai dit, enfin, là où l'algorithme lui a dit que la fissure se trouvait. Et puis, accessoirement, si jamais l'algorithme se trompe, parce que vous avez vu, il avait 98%, donc il pouvait se tromper un peu, et bien, le médecin peut le corriger. Il peut dire, non, là, c'est pas bon. Et donc, on peut l'intégrer dans un cycle vertueux où le radiologue est au cœur de la boucle. Et bien là, maintenant, on a les annotations de classe. Donc je sais si, grâce au rapport, si le ménisque latéral est fissuré ou le médial. J'ai des annotations avancées où le radiologue a mis des boîtes englobantes autour des ménisques, par exemple. Et là, on va combiner en cascade deux réseaux assez simples, en fait, deux réseaux convolutionnels. L'un qui va aller prédire la position des ménisques et l'autre qui va les classer, qui va dire est-ce que ce ménisque est fissuré ou pas. Et là, quand vous combinez tout ça, et bien là, ça commence à marcher beaucoup mieux. Alors, on n'est pas encore au niveau d'un radiologue, mais ça s'approche, ça avance. Et puis là, on a fait que 600 cas, parce qu'il faut quand même mettre des boîtes sur 600 volumes, ce qui est vraiment, vous pouvez imaginer, moi pour l'avoir fait, c'est assez long. Mais on en veut beaucoup plus. Alors, comment on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel à l'apprentissage actif, qui est une technique tout à fait de scientifique des données, et on va travailler avec le médecin, avec le radiologue. On va lui donner, comme je vous l'ai montré là, on va lui demander d'annoter, il va annoter, on va entraîner un premier algorithme sur les 600 cas du début, qui lui, bon, comme je vous ai montré, il est meilleur, mais il n'est pas à son niveau. Mais cet algorithme qui n'est pas très fort, on va le lancer sur toute la base, en entier, les 25 000, d'accord ? Et puis, si on est capable, alors là c'est toute la difficulté de l'apprentissage actif, si on est capable d'attribuer une confiance à chacune de ces prédictions, alors on peut classer cette base qui a été prédite par l'algorithme en confiance. Et je vais aller prendre une sous-partie de la base, toute petite, celle où je suis le moins confiant, et je vais le redonner au radiologue. Un peu comme les sportifs. Hein. Celui qui a un mauvais coup droit, on va le faire travailler que sur le mauvais coup droit. On fait pareil avec l'algorithme. Et par contre, on va montrer déjà au radiologue ce que l'algorithme produit. Du coup, le radiologue, il a juste à corriger. Et ça le fait gagner aussi du temps. On va re-entraîner un nouvel algorithme avec maintenant deux fois plus de données, qui sera un peu meilleur, on le reclasse et on fait pareil. Et là, très vite, on arrive à produire des annotations plus vite parce que les algorithmes proposent aux médecins à chaque fois des meilleurs résultats. Lui, parfois, il passe, il fait juste c'est bon. Et c'est comme ça que, par exemple, pour obtenir 5000 boîtes, ça nous a pris autant de temps que pour faire 600. D'accord ? Mais la notation avancée qui prend vraiment, vraiment beaucoup de temps, c'est la segmentation 3D, dont Yann a montré des résultats sur le même problème, du segmentation des fémurs et du tibia du genou en résonance magnétique, ce qui est beaucoup plus compliqué qu'en scanner. Et bien là, il faut bien comprendre que ce qu'on va demander au médecin, c'est d'aller contourer sur chacune des coupes. Il peut y en avoir 500, de contourer les os. Et là, c'est horrible. Enfin, vraiment, c'est très dur. Donc, on ne peut pas le laisser faire. On va l'aider. On va lui fournir un peu d'aide. Et pour ça, on va faire appel à la régularité de notre corps. Donc, nos fémurs et nos tibias sont tous différents, mais ils ressemblent tous un peu quand même. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un modèle moyen et on va l'utiliser de façon à ce que le modèle moyen se charge du lourd du travail de segmentation et le médecin ne vienne que corriger les erreurs que ce modèle aura fait. Et on va s'efforcer de faire que ces corrections soient très simples à faire. Ça sera des points. Donc le médecin, au lieu d'aller dessiner en 3D des contours sur des images, il va juste mettre des points à l'intérieur et à l'extérieur de la forme. Et alors, le principe, mathématiquement, il est assez facile à comprendre, on va dire. Vous allez représenter votre modèle sous forme de surface implicite où l'intérieur de l'objet est caractérisé par le signe positif et l'extérieur par un signe négatif. Cet objet-là va être déformé. Il va être déformé grâce à l'image. Okay, et il va essayer, le modèle, déjà lui tout seul comme un grand, à se placer sur les contours des deux os. Comme vous connaissez le signe de cet modèle déformé, vous savez que l'intérieur, il est positif, le médecin, maintenant, il va dire, je ne suis pas content, le bord que tu me montres n'est pas du tout où je l'attendais. Et donc, il va cliquer, il va donner un point en disant, je voudrais qu'il passe par là. Et là, comme moi, je connais le signe de ce qui est intérieur-extérieur, je sais ce qu'il m'indique, et je peux rajouter des contraintes au modèle, sous forme de contraintes, c'est des problèmes d'optimisation assez classiques, et du coup, je peux réoptimiser mon modèle qui va, lui, se déplacer maintenant et se replacer. Alors, ça, c'est des travaux qu'on a fait en 2012 et qui nous ont permis, à l'époque, de gagner un temps fou sur la segmentation semi-automatique d'imagerie ultrason 3D. Donc, c'était de l'ultrason 3D à l'époque, de reins malades, assez difficile à segmenter. Et en fait, on a montré qu'au bout de 6-7 clics, hein, pas de contour, hein, et ben, on avait des résultats déjà assez satisfaisants. Et puis, on a combiné dans une thèse avec Adrien Bertrand cette année, qui l'a fini cette année, on a combiné ça avec un U-Net, comme vous le montrait Yann tout à l'heure, où la partie encodante du net, celle qui descend en résolution, prédit une transformation globale, et la partie remontante prédit une déformation élastique. Et comme ça, on arrive maintenant à faire le même processus d'apprentissage actif que je vous ai montré tout à l'heure. Une fois qu'on a noté un certain nombre d'images, on entraîne ce modèle qui maintenant va faire des prédictions beaucoup plus précises et le médecin aura de moins en moins à corriger. Et puis, il ne faut pas oublier que quand on va prendre une RMN de genou, le genou il est fixe. Et un examen de résonance magnétique du genou, il ne va pas produire un volume, mais plein. 3, 4, 5. Mais le genou est fixe. Alors, ça veut dire que si vous bougez un tout petit peu, entre chacun des volumes, il y a juste une petite déformation. Alors, là, je ne la connais pas, mais elle est toute petite quand même. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre au profit le modèle tout à l'heure. Je vais utiliser la technique dont je vous ai parlé plus haut pour aller segmenter une seule image. Mais comme la déformation est toute petite et que le modèle, justement, il s'est déformé, eh ben, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de demander au médecin d'aller segmenter tous les autres volumes, je vais dire au modèle de le faire. Donc c'est le modèle qui va aller essayer d'interpréter cette déformation toute petite. Et c'est important que ce soit toute petite parce que c'est pas très dur. Et donc c'est le modèle qui va faire ce travail de segmentation de tous les volumes qu'un examen a produit à partir d'un seul. Et donc là, le gain, il est terrible. Alors, donc tout ça est très important donc pour produire ces vases de données annotées. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut que ces modèles soient le plus utilisables et le plus faciles à utiliser par le plus grand radiologue, parce que les bases annotées que nous allons produire doivent être variées et multicentriques. Parce que chaque radiologue, un peu comme nous tous, a un biais, et ce biais, il se récupère dans les algorithmes. Et donc il faut absolument distribuer ces outils à le plus de radiologues possible pour récupérer peut-être pas énormément de données par radiologue, mais au moins beaucoup de données entre tous, de façon à corriger ces biais. Alors ces données, elles sont précieuses, parce que même si, comme Yann l'a dit, tout à l'heure, peut-être à l'avenir, nous aurons des algorithmes qui n'auront plus tellement besoin de ces données annotées pour apprendre. On aura quand même besoin de les valider, en fait. Et effectivement, les algorithmes que j'entraîne aujourd'hui, dans 5 ans, ils seront complètement caduques. Mais ces données-là annotées, elles sont toujours là, elles sont toujours valables. Et elles vont me servir pour valider les nouveaux algorithmes. Et ça, ça rajoute de la confiance. Et nous aurons un topo plus tard dans la journée qui parle justement de cette confiance. Alors, pendant toute cette présentation, je me suis donc attaché à essayer de vous convaincre de l'importance de la notation médicale. Moi, je pense que c'est au centre du développement des algorithmes d'intelligence artificielle pour la radiologie. Il nous faut fournir une plateforme qui soit accessible au plus grand nombre de radiologues et qui soit intelligente, donc qui automatise la plupart des tâches et qui ne va chercher l'expertise que là où on en a vraiment besoin. Par ailleurs, cet outil doit être encadré quand même dans un cadre économique et contractuel qui respecte la privacité des données et qui intègre le radiologue dans la création de valeur de ces algorithmes, en fait. En tout cas, c'est la vision que je porte et que nous portons chez Incepto. Je vous remercie.